Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Un jour dans l'histoire. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des armures des princes d'Europe au XVIe siècle. Art majeur de la Renaissance, l'art des armures illustre à merveille la culture raffinée de l'époque maniériste. Les armures commandées par les princes de l'époque ne sont plus des objets de combat, mais bel et bien des objets d'apparat qui reflètent à la fois le pouvoir du commanditaire, mais aussi par leur beauté et la richesse du travail, son goût pour les arts ainsi que sa culture humaniste. Découvrons donc en compagnie d'Olivier Renaudot, conservateur du département ancien du musée de l'armée, cet art du métal et le rôle déterminant de l'école de Fontainebleau qui influença la production des ateliers les plus prestigieux d'Europe. Olivier Renaudot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Le musée de l'armée présente donc actuellement, et ce jusqu'au 26 juin, une exposition tout à fait exceptionnelle, intitulée « Sous l'égide de Mars, armure des princes d'Europe », qui réunit les pièces maîtresses des plus grandes collections d'armures européennes et américaines. Vous êtes un des co-commissaires de cette exposition et outre de montrer les plus belles armures de l'époque, véritables pièces d'orfèvrerie, c'est aussi l'occasion de se pencher sur l'armurerie de luxe à la française qui finalement demeure mal connue, même si très diffusée en Europe. Et donc nous allons, si vous le voulez bien, revenir ensemble sur l'émergence de cette école à la française qui se situe donc vers la seconde moitié du XVIe siècle, puisqu'avant, c'était plutôt le maniérisme italien qui dominait en la matière.
Oui, la grande zone de production d'armures et la capitale de l'armurerie européenne à cette époque, c'est Milan, et ce depuis une date assez ancienne, depuis le XIVe siècle. Et Milan produit à la fois des armures de combat qui sont répandues dans tout l'ouest de l'Europe, mais également des armures d'apparat. Et à partir des années 1530, les ateliers milanais vont mettre au point un nouveau type de décor, qui est ce décor en relief, ce décor avec repoussé, qui consiste à transformer l'armure en une sorte de sculpture héroïque, en quelque sorte, qui vise à retrouver l'esthétique et le faste de ces harnois de l'Antiquité classique que l'on décrit dans Homère ou dans Virgile. Donc les armures se couvrent de mufles de lion, de décors de rinceaux, de décors en relief avec des scènes de combat inspirées évidemment d'histoire romaine ou de la mythologie. Et ce goût qu'on a appelé la grande maniera est en quelque sorte la transcription dans l'art de l'armure des grandes inventions des artistes maniéristes, bon, essentiellement au début du XVIe siècle, Michel-Ange et Raphaël, qui ont eu une énorme influence sur tous les arts européens.
La cour de France, d'ailleurs, à cette époque-là, s'approvisionne, entre guillemets, d'ailleurs, en Italie, enfin, passe ses commandes à Milan.
Oui, nous avons d'ailleurs ouvert l'exposition avec un certain nombre de pièces italiennes qui sont justement des pièces qui ont été réalisées pour des commanditaires français. Et nous avons la chance d'avoir dans nos collections plusieurs pièces qui sont liées à des souverains français, notamment à Henri II, qui était un grand amateur d'armure. Et Henri II, nous avons une bourguignotte, c'est-à-dire un casque, une défense de tête qui porte le chiffre du roi. Et une armure qui est assez exceptionnelle, qui est l'armure qu'il portait en tant que dauphin. C'est-à-dire qu'une armure qu'il a portée alors qu'il était encore aspirant au trône, en quelque sorte. Il avait une vingtaine d'années, qui est due à un très grand atelier milanais, et qui montre justement le goût des plus hauts représentants de la cour de France pour cette armurerie milanaise.
Alors les choses changent au milieu du XVIe siècle avec le chantier de la galerie Renaissance de Fontainebleau.
Oui, en fait, le maniérisme français, un maniérisme typiquement français, disons, va se mettre en place autour du chantier de Fontainebleau, qui correspond à un moment où la cour de France ne va pas vraiment s'affranchir des modèles italiens, puisque beaucoup d'Italiens travaillent en réalité à Fontainebleau. Mais Fontainebleau est une synthèse. C'est une synthèse entre ces inventions qu'apportent les artistes italiens, comme Rosso ou le Primatis, mais également des artistes flamands ou des artistes français qui vont travailler ensemble. Et François Ier avait décidé, après la défaite de Pavie, avait décidé de refixer sa capitale en Ile-de-France, à Paris, qui était la capitale politique, et Fontainebleau, qui était en quelque sorte sa maison, sa résidence privée. Fontainebleau qui deviendra en fait un château que plus tard, qui deviendra un château en fait à l'époque d'Henri IV. Et le chantier de Fontainebleau va être l'occasion de créer un nouveau style à la française, qui mêle ses influences italiennes et puis un certain nombre d'éléments de décor nouveaux que l'on va trouver dans les armures françaises donc de luxe qui se répandent effectivement à la fin du règne de François Ier et au début du règne d'Henri II.
Donc finalement, l'apparition du maniérisme en France fait émerger une véritable école d'armurerie française. Alors cette école, d'après ce que vous montrez dans l'exposition, demeure très mal connue. Pourquoi ?
Alors nous avons un déficit d'archives sur ces armuriers. Nous avons des noms, nous avons des listes de noms. Le minutier central des notaires aux archives nationales conserve un nom assez important d'armurier. On a même des documents liés à des commandes. La petite difficulté que nous avons par rapport aux armuriers italiens ou germaniques de la même époque, c'est que ce sont des armuriers qui n'apposent pas leurs poinçons dans leur réalisation. Ces armures sont anonymes. Et malheureusement, nous n'avons pas de documents suffisamment précis qui permettent d'attribuer à une des armures réunies dans l'exposition, nous en avons un certain nombre qui sont présentées, d'attribuer un nom d'armurier en particulier, à une exception près sur laquelle, je pense, nous aurons l'occasion de revenir.
Donc, les maîtres ne signant pas leurs œuvres, on a quand même établi un style, le style de l'école française. Quelles en sont les caractéristiques ?
Alors, c'est un style qui est d'une extraordinaire qualité. D'ailleurs, la production française est une production beaucoup plus réduite en nombre que la production italienne. À vrai dire, dans l'exposition, nous avons réussi à réunir la quasi-totalité de ce qui subsiste de cette production à, mettons, une dizaine de pièces près, un peu plus mineures, qui sont conservées et dont nous n'avons pas pu obtenir le prêt. Ce qui caractérise cette production française, c'est que les décors repoussés sont en très faible relief, contrairement à ce qui se réalise en Italie, d'une très grande qualité de dessin. Et les orfèvres qui réalisent ces décors sont de véritables virtuoses du ciselet qui arrivent à suggérer, avec ces reliefs qui sont des reliefs très écrasés, en fait, qui arrivent à suggérer de véritables scènes avec des perspectives, avec des lointains, avec des paysages, le tout sur quelques millimètres d'épaisseur. Et les dessins sont d'une très grande qualité d'exécution, puisque tous ces décors sont composés au préalable par des peintres, et pas les moindres d'entre eux. Et ces éléments sont en plus très homogènes au niveau de leur iconographie et également au niveau de leur stylistique. On a un atelier d'ornemaniste visiblement unique, qui a travaillé pour toutes ces grandes armures princières et royales, et les armuriers ont travaillé très étroitement avec cet atelier d'ornemaniste, et toutes ces armures finalement appartiennent un petit peu à la même famille.
Oui, parce qu'un des mérites de l'exposition est aussi de montrer comment se fabrique finalement une armure. Et bien sûr, il y a le maître armurier qui est un des artisans, mais c'est loin d'être le seul, c'est le résultat d'un long processus finalement.
Oui, une armure est un travail collectif, puisque l'armurier, qui est celui qui apparaît souvent dans les archives, et c'est malheureusement souvent le seul, est chargé juste de réaliser à chaud, en travaillant des lingots de métal, de réaliser une carapace de métal qui va épouser strictement le corps de son propriétaire, de son commanditaire. Une armure, c'est une seconde peau, et elle est toujours réalisée sur mesure.
Surtout, d'ailleurs, vous dites qu'elles se devaient d'être assez confortables.
Enfin... Oui, elles sont confortables de fait, puisqu'elles sont vraiment réalisées à la morphologie du porteur. Et bien que nous soyons dans un contexte d'armure d'apparat, ce sont des pièces qui sont vraiment destinées à être totalement ergonomiques, je dirais, avec des articulations extrêmement bien conçues. Et elles épousent chacun des muscles, chacune des... vraiment la physionomie du futur client. L'armurier donc va livrer ces pièces qui sont travaillées à chaud, et ensuite il confie ces éléments de métal qui sont encore nus à un orfèvre, qui va réaliser ce décor en relief, donc qui va enfoncer le métal avec un certain nombre d'outils pour créer ces décors en relief, et qui ensuite va nuancer ce décor au ciselet, qui sont en fait des petits burins que l'on utilise avec un marteau et qui permettent de créer des effets de hachures, des points, des effets de matière en fait, ou de nuancer les modelés, notamment les musculatures ou les décors végétaux sur ce genre d'objet. Et ensuite peuvent intervenir d'autres artisans comme des doreurs, des damasquineurs, voire des émailleurs, on en a un exemple dans l'exposition. Et entre le moment où l'armurier livre l'armure nue et le moment où l'orfèvre travaille, il y a un autre intervenant qui est important, qui est le peintre. Le peintre qui va réaliser le patron du décor.
Et d'ailleurs, vous montrez un certain nombre de ces patrons, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, vous possédez relativement peu d'archives sur ces fameuses armures. Mais heureusement, il y a le fonds de Munich qui rassemble tout un ensemble de dessins d'un ornemaniste très connu.
Oui, alors c'est un fonds qui est très précieux pour nous. C'est un fonds qui a été réuni au XVIIIe siècle par un électeur de Palatinat, qui est devenu ensuite électeur de Bavière, d'où la présence de ce fonds à Munich encore aujourd'hui. C'est un fonds en fait de 170 dessins qui proviennent visiblement d'un atelier homogène, ayant participé à la décoration et à la conception des décors d'un certain nombre de grandes armures princières et royales, dont beaucoup d'ailleurs sont réunies dans l'exposition. Et ces dessins sont des dessins qui correspondent à chacune des pièces de l'armure, puisque chacune des pièces de l'armure fait l'objet d'un ou plusieurs dessins à l'échelle. Donc ce sont des feuilles de papier qui sont découpées à la forme, évidemment des formes très irrégulières, puisque entre la moitié d'une cuirasse, un morceau de gantelet, voire même des équipements destinés à des chevaux, puisqu'on a aussi des patrons pour des armures équestres, ces dessins permettent de mettre au net le décor à l'échelle, donc, et adapté à chacune des pièces de l'armure. Et ce fonds est extrêmement précieux, parce qu'on a réussi à identifier du coup la main d'un certain nombre d'artistes. Visiblement, le premier d'entre eux est celui qui semble avoir dirigé en quelque sorte certaines de ses compositions, c'est Jean Cousin le Père, qui est considéré comme le plus grand peintre français de cette époque, mais dont l'œuvre picturale est très peu connue. Nous avons très peu de tableaux de Jean Cousin. Nous avons l'Eva Prima Pandora qui est au Louvre, qui est la seule œuvre signée, et nous avons une œuvre à Montpellier qui lui est attribuée, beaucoup de dessins. Et en fait, Jean Cousin est un petit peu le Lebrun du XVIe siècle. Il semble avoir passé une grande partie de sa carrière à fournir des modèles dessinés pour des maîtres verriers, pour des orfèvres, pour des sculpteurs de tombeaux funéraires, notamment de sculptures funéraires. et également pour des armuriers, comme on le montre dans l'exposition.
Étienne Delaune aussi était donc un personnage un peu complexe, je dirais, mais on a souvent attribué donc la majorité des pièces
à Delaune. Delaune a longtemps été considéré comme le concepteur de ces décors. Et il est certain qu'Étienne Delaune est un orfèvre, donc est un orfèvre qui est né en Italie. Il a, semble-t-il, fait sa formation à Milan et il n'est venu que déjà assez avancé en âge en France. Son père était au service de la couronne, son père était tailleur du roi François Ier. Et Étienne Delaune, en fait, n'a jamais pu s'insérer en tant que maître parmi la communauté des orfèvres de Paris. Il est toujours resté compagnon, donc un personnage qui avait un statut finalement social assez peu favorisé par rapport à la communauté des maîtres orfèvres parisiens. Et Delaune a dû, une grande partie de sa carrière, sans doute parce qu'il était protestant, a dû abandonner son travail d'orfèvre et il s'est mis à la gravure. Ce qui était finalement un passage de relais relativement logique pour un artisan du métal. Et Delaune est un graveur extraordinairement prolifique, puisqu'on connaît plus de 400 estampes qui lui sont attribuées. Et il se trouve qu'il a eu accès à des dessins, à des modèles, notamment à certains de ses patrons dont on parlait tout à l'heure, à ses patrons de Munich, qu'il a gravés et qu'il a diffusés. Et Delaune a été un formidable diffuseur de formes. On trouve l'écho de ces estampes quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, où elles ont été utilisées par les orfèvres, par les fourbisseurs, par les fabricants d'armes, jusqu'à une période assez avancée. Et on a souvent attribué tous ces décors à Étienne Delaune. Et un des enseignements de cette exposition, c'est de montrer qu'Étienne Delaune, finalement, il n'est pas seul. Il y a d'autres artistes, donc, comme Jean Cousin le Père dont on parlait, Luca Penny, qui est un des artistes italiens qui a travaillé sur le chantier de Fontainebleau et qui a aussi donné des modèles pour des décors d'armure. Nous avons un autre artiste qui est en train d'émerger actuellement, qui est Baptiste Pellerin. Et les spécialistes sont en train de s'intéresser à ce personnage qui était totalement oublié. Et il semble que beaucoup de dessins qui étaient autrefois attribués à Delaune ils sont en train d'être réattribués en fait à Baptiste Pellerin. Delaune a peut-être intervenu sur ses armures. En tout cas, il a eu accès à ses décors et il les a diffusés par le biais de l'estampe. Et nous présentons dans l'exposition de nombreuses estampes de Delaune qui montrent justement ce répertoire décoratif utilisé sur les armures auquel il a eu accès et qu'il a contribué à diffuser.
Alors, l'école française donc, s'est développée au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, entre autres, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, grâce plutôt à Henri II, non, qui fut un gros commanditaire.
Oui, Henri II a été un grand mécène d'armure. Et c'est peut-être un des souverains français, le souverain français du XVIe siècle, pour lequel nous avons le plus d'informations sur les armures qu'il a portées, qu'il a commandées. Nous connaissons de façon certaine 4 armures qu'il a vraiment portées. 4 autres armures lui sont attribuées. Et il y a également d'autres armures qui sont connues par des dessins, mais qui malheureusement ont disparu, ou qui ne sont conservées qu'à titre de vestige. Et le fonds de Munich, d'ailleurs, conserve des dessins et des projets pour le décor de 2 grands ensembles, de 2 grandes armures, qui ont sans doute été réalisées pour le roi. Henri II a commencé sa carrière militaire jeune. Avant d'accéder au trône, il a été chargé par son père, François Ier, de commander l'armée française en Provence, puis en Piémont. Et ses premières victoires militaires, en fait, sont encore pendant sa période de Delphinat, en quelque sorte.
Je vous propose, Olivier Renaudot, de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Renaudot, conservateur du département ancien du musée de l'armée, venu nous parler des armures des princes d'Europe au XVIe siècle. Alors après avoir vu l'émergence et les caractéristiques de l'école française d'armurerie, intéressons-nous maintenant au rayonnement de cette école française en Europe au XVIe siècle. Et avant de parler des commanditaires de ces magnifiques armures qui permettent ainsi la diffusion du goût français en Europe, pouvez-vous nous dire deux mots du rôle de ces armures et de leurs accessoires, entre guillemets?
Ce sont essentiellement des pièces d'apparat. De toute façon, ces décors qui sont des décors en relief ont tendance à fragiliser le métal. Et les orfèvres, bien qu'étant des orfèvres spécialisés qui avaient l'habitude de travailler du fer et non pas de l'argent, donc un métal dur, ne pouvaient pas évidemment exécuter ce genre de décors dans des épaisseurs trop grandes. De plus, une armure de guerre est en général lisse parce qu'elle sert en quelque sorte de déflecteur au cou. Donc là, on est vraiment dans l'armure d'apparat. Certaines d'entre elles ont pu être utilisées occasionnellement pour des joutes, mais en fait, elles ne sont pas d'un poids suffisant pour pouvoir résister à des chocs ou en tout cas à une activité sportive violente. Ce sont des armures qui pèsent une quinzaine de kilos, alors qu'une armure de guerre ou une armure de joute atteint facilement une vingtaine de kilos.
Donc elles sont vraiment là pour montrer la puissance du commanditaire.
Ce sont vraiment des pièces de prestige qui étaient utilisées sans doute pour des entrées royales. On sait que certaines armures étaient utilisées même pour des grandes entrées à la suite de victoires militaires, où le prince les portait pour manifester en quelque sorte sa suprématie guerrière. Elles étaient peut-être utilisées pour des carrousels, qui sont des activités, des festivités équestres non sportives, disons, ou modérément sportives, qui sont surtout des exercices d'adresse. Et ce sont des pièces qui étaient également offertes en tant que cadeaux, voire collectionnées pour leur qualité esthétique. On a des cas d'armures qui ont été achetées, vraisemblablement pas pour être portées, mais uniquement pour leur splendeur.
Et le fait qu'elles reprennent toujours quasiment des scènes mythologiques, c'est là aussi pour montrer la puissance du prince héritier des dieux, en quelque sorte.
Alors, évidemment, le prince se met sous les meilleurs auspices, donc des figures sont assez fréquentes sur ses armures, comme les figures d'Hercule. Pas forcément Hercule accomplissant ses 12 travaux et terrassant tout un tas de bestioles étranges, mais Hercule qui représente aussi un personnage vertueux. C'est Hercule sur le chemin du vice et de la vertu, qui choisit évidemment la vertu, qui est une sorte de modèle moral pour le prince au XVIe siècle. En France, c'est l'Hercule gaulois, c'est-à-dire l'Hercule qui réussit par son éloquence à captiver ses ennemis. C'est une thématique qui s'est développée au XVIe siècle à la cour de France. D'autres thèmes sont privilégiés, par exemple à la cour de Suède, on a le thème des Amazones. Car la Suède considère que les origines mythiques du royaume de Suède, ce sont ces reines gothiques, qui étaient des reines combattantes, et donc qui sont tout à fait proches de ces Amazones de l'Antiquité, qui étaient également des femmes guerrières. À la cour de France, on a également d'autres thématiques qui sont très appréciées. Il y a un certain goût pour tous les grands vaincus glorieux de Rome. C'est-à-dire tous ces personnages qui se sont dressés à un moment contre la puissance romaine, qui malheureusement ont souvent payé de leur vie cette audace. Plusieurs pièces que nous présentons dans l'exposition évoquent par exemple la rivalité de César et Pompée. Ce n'est pas César le vainqueur qui est mis en évidence, c'est Pompée le perdant. Mais Pompée qui est le glorieux perdant en quelque sorte. On a d'autres pièces qui évoquent Hannibal, également un grand perdant mais qui a bien failli conquérir Rome, ou Jugurtha qui est le roi de Numidie qui s'est opposé aux légions romaines de Marius. Et on peut penser que cette thématique liée aux grands adversaires de Rome est liée évidemment à la position particulière du royaume de France au XVIe siècle, qui est opposée à un autre grand empire, qui est celui des Habsbourg, qui se considère comme le descendant légitime, en quelque sorte, de l'Empire romain. Et le royaume de France représente une sorte d'image anti-impérialiste, et à ce titre, va essayer de s'agréger toutes ces grandes figures de héros qui ont tenté justement de lutter contre le rouleau compresseur romain.
Alors vous parliez à l'instant des commandes de la cour de Suède. Alors vous présentez dans l'exposition un ensemble absolument impressionnant en tout cas, donc qui a été commandé par le roi Éric XIV de Suède. Alors lui aussi un grand commanditaire d'armure. Personnage un peu original.
Personnage assez sinistre en réalité. Éric XIV a régné relativement peu de temps. Hein. Il accède au trône de Suède en 1561 et il va être destitué par son propre frère en 1568. C'est un personnage qui correspond à une période où la Suède cherche à s'affirmer en tant qu'État indépendant, puisque la Suède était auparavant intégrée dans une confédération scandinave qui a explosé au début du XVIe siècle. Et nous sommes dans un État avec un souverain qui mène une politique nationaliste, notamment vis-à-vis de ses adversaires danois. Et Éric XIV va aller chercher, pour réaliser les armures extrêmement prestigieuses et extrêmement fastueuses, comme vous l'avez dit, qui exaltent en quelque sorte son autorité et son goût, il va aller chercher un armurier anversois, qui est un armurier assez étonnant, parce que cet armurier, Eliseus Liberts, va être le meilleur ambassadeur du goût français à l'étranger. C'est un armurier qui a priori fait toute sa carrière à Anvers, qui a été formé là-bas, mais bien qu'il ne semble jamais avoir été en contact avec les ornemanistes français et avec la cour de France, à récupérer des motifs, des éléments, des décors qui sont liés à ces grandes armures françaises. Et Liberts travaille dans le goût français et va introduire ce goût français en Suède, puis au Danemark, puis au XVIIe siècle, au moment où ces armures sont vendues par la cour de Danemark à la cour de Saxe, à Dresde.
Puisque les circonstances d'ailleurs qui nous permettent de connaître le travail d'Eliseus Liberts sont assez originales. C'est grâce finalement à des naufrages, à de nombreuses péripéties qu'on connaît son travail aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que le nom de Liberts a émergé en 1945 et est lié à un certain nombre de circonstances malheureuses. C'est un orfèvre qui a toujours eu une certaine malchance maritime. En 1562, il livre à Éric XIV de Suède sa première armure, qui est une armure qui est conservée à Stockholm. Et c'est au retour de ce voyage que Eliseus Liberts perd son bagage, qui coule avec le bateau sur lequel il était embarqué. En fait, le bateau, l'épave va être enflouée et Liberts est obligé de décrire ce qu'il a dans sa caisse pour pouvoir récupérer son bagage. Et ce sont des indications très précieuses pour nous, parce que nous savons combien il a été payé pour la première armure qu'il a livrée. Nous savons d'une part qu'il vient de livrer une armure, il le dit. Nous savons également qu'il a la commande d'une deuxième armure, et qu'à ce titre, il embarque même dans sa caisse un pied et une jambe à la mesure du roi de Suède. Ce qui montre bien son statut d'armurier et pas seulement d'orfèvre, pas seulement de décorateur d'armure. Et en 1565, donc, Liberts livre à Henri XIV sa deuxième commande, qui est une extraordinaire armure pour homme et cheval, qui est conservée à Dresde. On peut le considérer comme étant la plus belle armure du monde, l'armure la plus fastueuse, spectaculaire. Une armure en plus qui, à vrai dire, n'a jamais été portée, parce que au moment où Liberts livre son armure à Henri XIV de Suède, le bateau sur lequel il a embarqué cette pièce magistrale est détourné par un navire danois, puisqu'on est toujours dans une période de conflit entre le Danemark et la Suède, et l'armurier et son armure se retrouvent en captivité à Copenhague, donc chez les ennemis de son commanditaire, où d'ailleurs Liberts va plutôt bien se trouver, puisqu'en fait Frédéric II de Danemark va lui donner des commandes, et Liberts va rester 3 ans au Danemark.
Et la magnifique commande d'Éric XIV n'était-elle pas aussi pour en mettre entre guillemets plein la vue à l'épouse qu'il visait à l'époque ?
Oui, comme beaucoup de princes européens, Éric XIV avait caressé le projet d'épouser Élisabeth Ier d'Angleterre. Évidemment, la Suède et l'Angleterre étaient deux nations maritimes, donc cela pouvait évidemment les rapprocher. Bon, il n'a pas plus de chance que le futur Henri III, ou qui a aussi été un prétendant d'Élisabeth Ier d'Angleterre, ou Ivan le Terrible, qui lui aussi s'est cassé les dents sur la reine.
Pour en revenir à Eliseus Liberts, signait-il ses armures ?
Alors non, il a ceci de commun avec les ateliers français qui ne signent pas ses réalisations. En fait, nous connaissons son travail grâce à ces naufrages dont je vous ai parlé et grâce aux documents de la cour de Suède où il est documenté.
Mais on aurait presque pu dire sinon que c'était un travail français.
On aurait presque pu dire que c'était un travail français. Il y a quelques différences qu'on pense avoir mis en évidence dans l'exposition. À vrai dire, quand le nom de Liberts est sorti des archives en 1945, on a considéré qu'une grande partie des armures qu'on peut qualifier dans le goût français, ont été attribués à Liberts. Et un des travaux que nous avons essayé de faire à l'occasion de ce projet, c'est justement de départager ce qui relève de Liberts, qui a vraiment un style autonome, qui lui est propre. C'est un véritable virtuose du ciselet. Ses réalisations sont époustouflantes de qualité en termes de précision des détails. C'est en plus un adepte de l'horreur du vide. Ses armures sont littéralement couvertes d'ornements. Il n'y a pas un centimètre carré de métal qui n'est pas ornementé. Mais Liberts distingue aussi les ateliers flamands contemporains. Il n'adopte pas le même style décoratif que ses contemporains qui sont très inspirés par un graveur comme Cornelis Floris, par exemple, qui est un des grands donneurs de modèles dans la Flandre du XVIe siècle.
Olivier Renaudot, nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment. J'invite vraiment nos auditeurs à aller voir cette exposition sous l'égide de Mars, les armures des princes d'Europe, puisqu'il vaut mieux aller voir les pièces que d'en parler. Et pour ceux qui ne pourront pas se rendre au musée de l'armée aux Invalides, je les invite à découvrir le magnifique catalogue de l'exposition paru aux éditions Nicolas Chaudin. Merci beaucoup, Olivier Renaudot.
Merci à vous.